Prends ton sablier. Le temps est hors de ses gonds.
Ouah, il a l'air tout bougon.
Mais non, surtout là, il me fait peur.
En 1966, Charlotte Béra publie « Rêver sous le Troisième Reich ». Ce sont les résultats d'une enquête menée à Berlin entre 1933 et 1939. Béra a collecté des rêves de médecins, d'avocats, de femmes de ménage, de cordonniers, de femmes au foyer, des juifs et des non-juifs. L'objectif de son enquête était de rendre compte de l'impact du nazisme jusque dans ce que les êtres humains pensent avoir de plus intime, leur sommeil. Robert Ley, un dirigeant nazi, suicidé avant son procès à Nuremberg, avait déclaré « En Allemagne, il n'y a plus d'affaires privées. Dès le moment où vous vous réveillez et vous rentrez en contact avec une autre personne, vous devez vous rappeler que vous êtes un soldat d'Adolf Hitler. La seule personne qui soit encore un individu privé en Allemagne, c'est celui qui dort. » Eh ben non, même pas. Même celui qui dort travaille pour le Führer. La réalité du nazisme est telle qu'elle s'impose jusque dans les rêves. Berat a collecté des rêves de non-juifs qui rêvent avec inquiétude qu'on leur découvre une ascendance juive. Une jeune fille qui rêve qu'elle doit fournir un certificat d'arianité à un employé qui déchire le certificat et lui dit « Et maintenant, est-ce que tu es purement arienne ?» Ou des non-juifs qui rêvent qu'on met en doute leur adhésion au nazisme. Un chef d'entreprise rêve que Goebbels vient visiter son usine. « Je dois lever le bras pour faire le salut hitlérien. » Il me faut une demi-heure pour réussir à lever le bras, millimètre par millimètre. Goebbels observe mes efforts comme s'il était au spectacle, sans applaudir ni protester. Mais quand j'ai enfin le bras tendu, il me dit ces cinq mots. Votre salut, je le refuse. Il fait demi-tour et se dirige vers la porte. Un juriste de 40 ans rêve qu'il dit à son frère qu'il n'a plus de joie à rien et reçoit immédiatement un coup de téléphone du service de surveillance. Je sais que mon crime est en rapport avec ce que j'ai dit à propos de la joie. Je m'entends argumenter, prier, supplier, qu'on me pardonne cette fois, que juste cette fois on ne me dénonce pas. On raccroche en silence, me laissant dans les affres de l'incertitude. On dirait du Kafka. Tout se met à ressembler à du Kafka. Et puis il y a les rêves de négociation. Ceux où le rêveur, anti-nazi, essaye de trouver des compensations personnelles, narcissiques, à une situation que pourtant il déteste. Un ophtalmologue anti-nazi de 40 ans rêve qu'il doit soigner les yeux d'Hitler. « Je suis le seul au monde à en être capable, honteux d'en être fier, je me mets à pleurer. » La sexualité s'en mêle, ainsi une femme de 40 ans, pourtant tout aussi anti-nazi, « Hitler me veut, et je lui dis « Mais je ne suis pas nazi !» et je lui plais encore plus. » Une employée de maison de 33 ans. « Je suis au cinéma, j'ai peur. Seuls les camarades du parti ont le droit d'aller au cinéma. Hitler arrive et j'ai encore plus peur. Or, non seulement il m'autorise à rester, mais il s'assied à côté de moi et passe son bras autour de mes épaules. » Enfin, un médecin juif qui rêve qu'il soigne Hitler parce qu'on a décrété, un peu comme pour l'ophtalmologue, qu'il était le seul à pouvoir le faire. « Que voulez-vous pour m'avoir guéri ?» demande Hitler. « Pas d'argent, dis-je. » Sur quoi un grand blond de l'entourage de Hitler « Toi, juif crochu, tu ne veux pas d'argent ?» Alors Hitler, d'un ton de commandement, « Naturellement pas d'argent. Nos juifs allemands ne sont pas ainsi. » Mais le changement est total si l'on se tourne vers les récits de rêves rapportés des camps. Charlotte Berat parle d'un jeune homme qui ne rêve plus que de carrés, de triangles ou d'octogones, parce qu'il est interdit de rêver. Jean Cayrol, lui-même rescapé d'un camp de concentration, rapportera semblable rêve sans vie et sans objet. Le prisonnier pouvait être sauvé par une couleur majeure. Toutes les forces invincibles de l'homme se retrouvaient dans le cri de cette couleur sacrée et originelle. Si la réalité du nazisme est si forte qu'elle s'impose jusqu'au rêve, celle des camps ne permet plus de se figurer aucune perspective, aucune narration, aucune forme. On en était arrivé là il y a moins d'un siècle. La mise en œuvre d'une politique génocidaire à échelle industrielle visant des populations entières jugées indésirables. Mais aussi la découverte que le progrès scientifique, dans lequel la philosophie, héritière des Lumières, avait mis tant d'espoir, l'opposant à l'obscurantisme religieux, la découverte que le progrès scientifique allait surtout aider les hommes à s'entretuer avec plus d'efficacité, plus de froideur, plus d'indifférence encore. S'étonner que les choses que nous vivons soient encore possibles au XXe siècle n'a rien de philosophique, écrit le critique littéraire et philosophe allemand Walter Benjamin dans les thèses sur le concept d'histoire. Ce n'est pas un étonnement qui se situe au commencement d'une connaissance, si ce n'est la connaissance que la représentation de l'histoire qu'il engendre n'est pas tenable. Les thèses sur le concept d'histoire sont le dernier texte que nous possédons écrit par Walter Benjamin. Il a été rédigé à Paris entre la fin de l'année 1939 et le début de l'année 1940. Le pacte germano-soviétique, signé le 23 août 1939, a donné un coup d'arrêt momentané au mouvement de contestation antifasciste et désorienté une partie de la gauche. Puis en juin 1940, c'est l'armistice et les pleins pouvoirs à Pétain. Walter Benjamin, comme de nombreux intellectuels juifs exilés en France, n'est plus en sécurité. Il fait parvenir une copie du texte à Gretel Adorno, l'épouse de Théodore Adorno, et en confie le manuscrit à Hannah Arendt au moment de quitter la France pour l'Espagne, où, croyant sa situation personnelle désespérée, il se suicide le 26 septembre 1940 à Portbou. Le texte de Benjamin s'attaque à une vision de l'histoire mettant en scène l'humanité avançant inéluctablement dans la direction de son émancipation. À cette histoire, présentant une progression ordonnée et harmonieuse, Walter Benjamin oppose une tradition des vaincus non chronologique, une histoire intempestive qui fasse des sauts de tigre dans le passé pour transformer notre regard sur le présent. Je cite Benjamin. « Faire œuvre d'historien ne signifie pas savoir comment les choses se sont réellement passées. Cela signifie s'emparer d'un souvenir tel qui surgit à l'instant du danger. » Bien sûr, cette vision benjaminienne de l'histoire se distingue en tout point de la philosophie de Hegel, où l'on lit, à travers la figure des grands hommes, César, Napoléon, etc., la réalisation de la raison dans l'histoire. Une conception de l'histoire qui est aussi toujours une conception de la grandeur. Conception de la grandeur à laquelle s'oppose de son côté la philosophe Simone Weil dans ses textes écrits à Londres en 1943 alors qu'elle travaille pour la France libre. Je cite Simone Weil. « Notre conception de la grandeur est la tare la plus grave. Notre conception de la grandeur est celle même qui a inspiré la vie tout entière d'Hitler. » Nous y sommes. Comment on va faire pour traiter d'un problème pareil en un seul épisode, à l'intérieur de ce morceau de planète qu'on a pris l'habitude d'appeler la France? C'est une tâche, il faut l'admettre, impossible. Comme de faire l'exégèse, en un seul épisode, de ce qu'il faut bien appeler la culture antisémite française. Une culture à la fois journalistique, littéraire et politique, indissociable de l'évolution de la droite française entre le 19e et le 20e siècle. Une culture antisémite française qui va conditionner les modalités très particulières de la collaboration de Pétain avec l'Allemagne nazie. Alors, comment on va faire? On va commencer par la fin. On va partir de la condamnation lors de la libération le 25 janvier. De l'Action française, premier mouvement d'extrême droite au sens moderne du terme. Au moment du verdict, Maurras s'écrie, comme si le passé lui bondissait à la gorge, c'est la revanche de Dreyfus. Retourne ton sablier, le temps doit repartir à l'envers.
Bah on est là.
Let's go.
Mon nom est Paco Mthielman, je ne suis pas historien, je suis exégète. Ce programme ne prétend pas plus à l'objectivité qu'à l'exhaustivité. C'est un voyage de l'âme dans le monde des morts, une expérience durant laquelle le temps se fait espace. Pour cet épisode, j'ai reçu l'aide des historiens Raphaël Carbone et Marie Méromieux, de l'écrivain et historien Grégoire Kaufmann et de l'écrivain et journaliste Delphine de Thon. Alors, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre.
Send mama to the baby in the corn.
You are my firstborn. Bienvenue dans L'Empire n'a jamais pris fin. Saison 3, épisode 4. Drummond, Pétain et compagnie. Faites entrer les antisémites. Alfred Dreyfus, né le 9 octobre 1859 à Mulhouse, il meurt le 12 juillet 1935 à Paris. Il est issu d'une vieille famille juive alsacienne. C'est le petit dernier d'une fratrie de 7 enfants. Son père, Raphaël Dreyfus, possède une modeste filature de coton. Après la défaite de Sedan et l'armistice de 1870, la France perd l'Alsace et la Moselle. Pour garder la nationalité française, les Dreyfus quitte l'Alsace. Il s'installe en Suisse, à Bâle, et envoie le petit Alfred à Paris, où il passe son baccalauréat et est reçu à l'école polytechnique. Patriote, consciencieux et zélé, percevant la défaite de 1870 comme une humiliation, Alfred Dreyfus décide d'embrasser une carrière militaire. Il est nommé lieutenant en 1882, il va bientôt devenir capitaine et entrer au ministère de la guerre. En 1890, il épouse Lucie Adamard, avec qui il a 2 enfants, Pierre et Jeanne. On est dans une période marquée par la guerre vite perdue de ce bozo de Napoléon III. Guerre perdue en 1870, qui a entraîné une obsession de la revanche et une course aux armements. Mais aussi le développement du contre-espionnage militaire. La section des statistiques, dirigée en 1894 par le lieutenant-colonel Sander, secondé dans sa tâche par le commandant Henri. La course aux armements plonge l'armée dans une parano totale. Alors on contre-espionne comme des bêtes. En particulier, l'attaché militaire à l'ambassade d'Allemagne, Maximilien von Schwarzkoppen. On le contre-espionne par l'intermédiaire de Madame Bastian, employée comme femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne et qui fouille tous les soirs dans ses poubelles pour le compte de la section des statistiques. Dans les poubelles de Schwarzkoppen, le commandant Henri découvre en septembre 1894 une lettre qu'on va appeler par la suite le bordereau. Le bordereau annonce la transmission prochaine de plusieurs documents militaires confidentiels. Pas des documents de grande importance et surtout pas de première main. On promet une note sur un frein hydraulique, une autre note sur quelques modifications relatives aux troupes de couverture, une troisième sur une modification dans les formations de l'artillerie. Des miettes. Mais bon, dans une période d'espionnage à gogo, il n'y a pas de petite trahison, ça peut s'entendre. Le ministre de la Guerre, Mercier, lance une enquête pour trouver le traître. Le chef d'état-major, le général de Boisdeffres, et le sous-chef d'état-major, le général Gonse, sont sur le coup. Et un certain lieutenant-colonel d'Aboville trouve une sorte de traître idéal de con, le capitaine Alfred Dreyfus. Traître idéal à quel titre ? Traître idéal à titre qu'il est juif. C'est tout ? C'est tout. C'est qu'avant, il y a eu la publication de « La France juive » d'un certain Drummond en 1886, suivi par la création en 1892 d'un journal dirigé par ce Drummond, « La Libre Parole », journal dont le sujet est, je vous le donne en mille, « Les Juifs », un quotidien. Un quotidien, faut le remplir. Eh ben Drummond, pour le remplir, il le remplit, son quotidien. On va y venir. Boisdeffres, Gonse et le commandant Henri lancent alors une analyse comparative de l'écriture du bordereau et de celle de Dreyfus. Elles se ressemblent un petit peu, mais elles ne sont pas identiques. Alors le commandant Dupaty de Clam, nommé officier de police judiciaire chargé de l'enquête officielle, propose l'idée que Dreyfus aurait contrefait volontairement son écriture pour ne pas être démasqué. Bien tordu tout ça. Le 13 octobre, Dreyfus est convoqué pour une inspection générale en civil. Dupaty compte obtenir des aveux, mais Dreyfus n'avoue rien. Qu'à cela ne tienne, on le fait arrêter quand même. On l'inculpe d'intelligence avec l'ennemi et on le traduit devant un conseil de guerre. et l'affaire fuit aussitôt dans le journal de Drummond, La Libre Parole. Drummond jubile, il a un juif à se mettre sous la dent. Un officier juif, ça va bien remplir ses pages. Drummond.
Personne dans le monde ne marche,
pas le papa adoptif d'Arnold et Willy, Édouard Drummond. Pour comprendre la place qu'Édouard Drummond a prise dans la vie intellectuelle bourgeoise française depuis 1886 et qu'il gardera plus ou moins pendant un demi-siècle, il n'est pas inutile de se reporter au souvenir d'un de ses fanboys célèbres. Ce fanboy, c'est Léon Daudet. Léon Daudet, futur membre de l'Action française, qui n'existe pas encore. Écrivain et journaliste, fils d'un écrivain très connu, Alphonse Daudet, l'auteur des Lettres de Montmoulin. Par son père et par sa mère, Julia Allard, qui tenait un salon littéraire, enfin par son mariage avec une petite fille de Victor Hugo, Jeanne, Léon Daudet a accès aux plus grands écrivains et artistes de son temps. Il les connaît tous. Il aime la littérature, il aime l'art. Et pourtant, le grand événement de sa jeunesse, c'est la France juive de Drummond. Ses souvenirs sont littéralement construits autour de l'apparition du livre « La France juive ». On voit le livre poindre par allusion. Il est régulièrement annoncé en fin de chapitre, par exemple par son père, qui dit de son ami Drummond qui est venu dîner « Le livre qu'il est en train de préparer ne sera pas une petite affaire. J'ai hâte d'arriver à la bourrasque de la France juive !» Piaffe d'impatience Léon Daudet. L'ouragan sorti de ce volume a d'abord soufflé chez les hommes de lettres, puis dans le public assis de lecteurs, puis dans les divers milieux sociaux, les soulevant, les étreignant, les forçant à réfléchir. Nul ne peut prévoir où il s'arrêtera. Ah bah tu crois pas si bien dire. Léon Daudet ne se souvient pas seulement du jour de la sortie. Il se souvient de ce qu'il faisait la veille. Il se souvient de son père 10 ans avant d'aller faire dodo. C'est demain que paraît la France juive. C'est que Léon Daudet a l'impression qu'avant l'éclatement de cette bombe, c'est comme ça qu'il en parle. L'antisémitisme était beaucoup trop diffus, beaucoup trop anecdotique et pour ainsi dire, politiquement inopérant. On pouvait être antisémite individuellement, mais cet antisémitisme n'était pas organisé, il n'était pas théorisé, il ne faisait pas explication générale. Cet antisémitisme ne prétendait pas faire programme, que ce programme soit journalistique, métaphysique ou politique. Ce n'était pas encore une vision du monde. Pourquoi ? À cause de l'emprise de la République sur les consciences, explique Léon Daudet. À cause des principes républicains. Je cite Daudet. « Tous s'accordaient pour mettre les sémites sur le même pied que les autres Français, comme on disait. » Mais oui, souvenez-vous, c'était pendant la Constituante, le 23 décembre 1789, que face au grotesque abbé Maury, porte-parole de l'aristocratie, qui parlait des sueurs des esclaves chrétiens arrosant les sillons où germait l'opulence des Juifs, Maximilien Robespierre avait défendu l'accès des Juifs à la citoyenneté. Je cite Robespierre. « Comment peut-on leur opposer les persécutions dont ils ont été les victimes chez différents peuples ? Ce sont au contraire des crimes nationaux que nous devons expier en leur rendant les droits imprescriptibles de l'homme dont aucune puissance humaine ne pouvait les dépouiller. » Robespierre et la Révolution française avaient fait beaucoup de mal à l'antisémitisme. Et celui-ci avait dû se réinventer. Se réinventer de façon séculière, en dehors de son schéma initial, c'est-à-dire de son sens religieux chrétien. Les Juifs comme peuple déicide, vous savez, ils ont tué Jésus. Les Juifs qui empoisonnent les puits, qui tuent les enfants dans des crimes rituels et utilisent leur sang pour faire du pain azim. Se réinventer, voire s'inventer, si on pense qu'en 1886, le mot d'antisémitisme existait à peine, qu'il a commencé à circuler au début des années 1880 dans les écrits du pamphlétaire Wilhelm Marr. Mais la mentalité existait. Cependant, désormais, elle devait abandonner son substrat théologique pour s'installer dans une lecture raciale. Ce qui est largement pire dans la perspective de l'antijudaïsme chrétien. Un juif était sauvé s'il se convertissait. mais dans les yeux d'un antisémite moderne, conditionné par le racisme biologique. Un juif ne peut pas changer. Il est mauvais, et puis c'est tout. Et c'est ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle ici de culture antisémite française particulière. Une culture antisémite française s'épanouissant pleinement entre la France juive de Drummond et l'affaire Dreyfus. On ne parle pas ici d'aimer ou de ne pas aimer les juifs, mais de penser que tout ce qui est mal vient des juifs, de penser que tout ce qui est mal est juif. Le grotesque sentiment d'importance qui accompagne la publication de La France juive n'est pas que dans le cœur des Daudet père et fils. Il est dans celui de Drummond lui-même. À un journaliste qui lui demande « Comment avez-vous été amené à écrire ces deux volumes de La France juive qui sont d'une si prodigieuse documentation ?» Drummond répond « Eh bien, vous allez me trouver extraordinaire, mais j'ai obéi à une vocation. Parfaitement, j'ai entendu à un moment comme une voix intérieure qui me répétait du matin au soir « Va, va, va !» et j'ai fini par y aller. » En effet, il y est allé. Drummond, cet homme au comportement notoirement excessivement malsain. Drummond, qui, comme l'écrira son ami Maurice Barrès, pourtant turbo-antisémite lui-même, jamais ne fut à l'aise, ni ne mit personne à l'aise, à cause d'une gêne qu'il mettait dans l'atmosphère et que je ne puis définir. Drummond a lui-même rédigé le prière d'insérer de son livre à l'attention des journalistes. En effet, il est gênant. C'est la gênance. Dans La France juive, le vaillant écrivain a étudié sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, cette société française, jadis si brillante, et dans laquelle, sous l'influence délétère du juif, tout est en train de périr. La foi, l'art, l'enthousiasme, le sentiment de l'idéal, l'industrie, le commerce. Eh ben mon vieux, tout ça, tout ça. Et ce livre de 1200 pages en deux volumes, qui ne nous semble aujourd'hui ni fait ni à faire, va se vendre à 62 000 exemplaires rien qu'en 1886. Le vaillant écrivain sera traduit en italien, en espagnol, en polonais, en allemand. Pourquoi ? Parce qu'en pleine époque révolutionnaire, faite de revendications sociales et de propositions politiques communistes et anarchistes, Drummond a trouvé un joker. Il a trouvé quelque chose qui, tout en prétendant partager les indignations du peuple, met la lutte des classes au second plan. Ce qu'a trouvé Drummond, c'est de faire la synthèse de trois choses qui jusqu'alors roulaient séparément. 1. Le vieil anti-judaïsme chrétien. Le peuple déicide et toutes les légendes idiotes qui vont avec, donc. 2. Le racisme scientifique. Ce qui donne la race juive, décrite comme race biologiquement inférieure. Et enfin, 3. Une sorte de pseudo-socialisme pour les cons. Les juifs se partagent tout le gnargent, pendant que vous, le petit peuple, trimez comme des bêtes. Ainsi, lorsque Drummond couvrira le massacre de Fourmies en 1891, une manifestation ouvrière pacifique, revendiquant des journées de 8 heures et réprimée dans le sang par l'armée française. Drummond expliquera le massacre par la présence d'un sous-préfet juif et dira d'une des victimes « On n'a jamais pu retrouver la magnifique chevelure blonde dont elle était si fière. La légende prétend que cette chevelure a été dérobée et vendue. Elle aura probablement été ornée, la tête chauve, de quelque vieille baronne juive. » Et ben, cette gêne qu'il mettait dans l'atmosphère, il me semble bien la retrouver dans sa façon de parler de la chevelure d'une morte. Ce mec, on ne lui confie ni sa petite nièce, ni le cadavre d'une femme, s'il vous plaît. En fait de socialisme, proclame Drummond, il n'y a que l'antisémitisme de dangereux pour les féodaux de la plutocratie. L'antisémitisme seul est susceptible d'aboutir à un résultat pratique. Ah ouais ? L'antisémitisme est surtout le seul susceptible d'aboutir à un résultat qui, tout en renchérissant sur les peurs de prolétarisation des classes moyennes, ne remette pas en cause l'ordre social qui les a mis dans cette situation. et ce vague anticapitalisme reste d'autant plus ambigu que Drummond l'installe dans l'éloge de l'Ancien Régime et la détestation systématique des acquis de la Révolution française. Le seul auquel la Révolution ait profité est le juif. Ce qui fait que Drummond est sans réelle proposition politique, à part de faire chier les juifs. Drummond doit tenir compte de la diversité de ses soutiens, explique Grégoire Kaufmann, ce qui le condamne à rester dans le vague. Il s'abstient prudemment de prendre position sur la forme du régime. Empire, monarchie, république autoritaire débarrassée du parlementarisme, Drummond ne tranche pas. En 1892, 2 ans avant le début de l'affaire Dreyfus, fort du succès de ses livres, Drummond va créer un journal, La Libre Parole, un nouveau journal que son ami Barrès va accueillir par ses mots. L'antisémitisme n'était qu'une tradition un peu honteuse de l'ancienne France. Quand au printemps de 1886, Drummond l'a rajeuni en une formule qui fit tapage. Aujourd'hui, l'antisémitisme est devenu une forme de socialisme. Il faudrait qu'après avoir mis en relief toutes les injures que nous font les hommes d'argent qui maîtrisent ce siècle, vous, Drummond, nous fissiez entrevoir un beau rêve. À votre noir tableau des excès de la France juive, opposez une conception délicieuse de la France sans juifs. Et c'est exactement ce que fait aujourd'hui Drummond. Au cri premier, sus aux juifs, il substitue la France aux Français. Oui, la France aux Français est un slogan de Drummond. En 1894, 2 ans seulement après la création du journal, l'affaire Dreyfus apparaît comme une aubaine. La libre parole tirée à 200 000 exemplaires, elle double ses tirages et passe subitement à 450 000 exemplaires. L'affaire Dreyfus fait vendre, c'est peu de le dire. Cette figure répulsive du juif espion et comploteur, écrit encore Grégoire Kaufmann, Drummond l'avait construite bien avant l'arrestation de Dreyfus. Il importe donc que ce dernier soit coupable à tout prix, avant même de passer en jugement. Tu m'étonnes, c'est même pas une question. On va pas vérifier les éléments du dossier. La libre parole sera à l'avant-garde de l'affaire Dreyfus. Cette affaire sera son affaire. Elle va la mener tambour battant et avant même le procès. Le 1er novembre, au matin, la libre parole titre en première page « Haute trahison, arrestation de l'officier juif à Dreyfus ». Ce gros titre est le premier consacré à l'affaire Dreyfus. Et tout cela ne sera pas sans conséquences sur le procès, sur l'affaire et sur la vie politique française. Le procès Dreyfus par le Conseil de guerre a lieu à huis clos en décembre 1894. À huis clos, ce qui permet de ne pas divulguer le dossier beaucoup trop maigre au grand public. Parce que dans le rapport d'instruction, on le rappelle, il n'y a rien. À part ce pauvre bordereau dont l'écriture ressemble un peu, mais pas assez, à celle de leur accusé. Mais le fait qu'il n'y ait rien sert désormais à la charge. Cela suggère que Dreyfus a tout fait disparaître derrière lui. Et toutes ses qualités se retournent contre lui. Son sérieux est un indice de fourberie, son patriotisme une preuve de dissimulation. Bref, le 22 décembre, il est décrété coupable. Il est dégradé le 5 janvier 1895 et déporté au bagne le 14 avril. Il est envoyé à l'île du Diable, une île ayant précédemment servi à isoler les lépreux. Dreyfus est le seul prisonnier de l'île, surveillé jour et nuit par des gardiens relevés toutes les 2 heures et à qui il a interdiction de parler. Sa liberté de mouvement est limitée aux 200 mètres entourant sa case de pierre de 4 mètres sur 4. Son épouse n'est pas autorisée à le rejoindre. Il est sous-alimenté, nourri de denrées frelatées et mal soigné sous une température de 45 degrés. Enfin, le 6 septembre, les conditions s'aggravent. On décide de le mettre au fer la nuit. Oui, toutes les nuits, il est enchaîné à son lit, les chevilles entravées par une double boucle qui meurtrit sa chair. On est à ce niveau d'enfer. Pendant ce temps, son frère Mathieu, convaincu de son innocence, ainsi que son épouse Lucie, font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir la révision du procès. Mais personne n'ose s'associer à eux. Tout le monde a peur. Mathieu Dreyfus rencontre quand même quelqu'un qui n'a pas peur. Ce quelqu'un, c'est Bernard Lazare, 31 ans, journaliste anarchiste d'origine juive et ami de l'avant-garde littéraire et poétique, adorant Mallarmé et Villiers de l'Adam et détestant Zola. Zola qui pourtant partagera son combat. Un brave homme, concédera Lazare à propos de Zola après l'affaire Dreyfus. Mais un pauvre esprit, ayant peu réfléchi sur la vie et se contentant de phrases vides et de coquilles creuses. Bernard Lazare va passer l'été à étudier l'ensemble du dossier. Et c'est un an plus tard, en été 1896, qu'il publie son premier opuscule. Un opuscule tiré à 3500 exemplaires et adressé à un public choisi de députés, de sénateurs et de journalistes. Ce que fait Lazare génial, c'est une des premières enquêtes de journalisme d'investigation. Il démonte les mensonges officiels et y rend disponibles des documents cachés jusque-là. Précisons que Bernard Lazare s'était déjà attaqué à l'antisémitisme et en particulier à Drumont. Drumont qui avait écrit à l'adresse de la jeune génération en 1893 « Je sens que c'est vous qui nous vengerez quand vous serez grand et quelque chose me dit que le châtiment sera effroyable. » « Avez-vous d'autres solutions ?» lui avait demandé Bernard Lazare « au bout de vos idées, de votre logique, que le massacre des Juifs du monde entier ?» Un autre des premiers défenseurs de Dreyfus est bien entendu l'écrivain Charles Péguy, dont la librairie qu'il fonde en 1898 sert de quartier général aux partisans de l'innocence de Dreyfus. Péguy va devenir un ami de Bernard Lazare, auquel il restera fidèle jusqu'au bout, malgré les grandes divergences politiques entre les deux. Péguy, socialiste devenu de plus en plus chrétien, patriote et va en guerre, et Bernard Lazare, anarchiste, resté indéfectiblement internationaliste. Plus tard, en 1910, au sujet de l'affaire Dreyfus dans notre jeunesse, Péguy écrira « Ce n'était pas une illusion de notre jeunesse. Plus cette affaire est finie, plus il est évident qu'elle ne finira jamais. » Passons au vrai coupable de cette affaire infinie, Ferdinand Esterházy. Je dis Ferdinand Esterházy, mais c'est pas son vrai nom. Il n'y a jamais rien eu de vrai chez lui, même pas son nom. Son vrai nom, c'est Ferdinand Valzin. C'est le descendant d'un petit bâtard de la comtesse hongroise Esterházy de Galanta, adopté par un médecin nommé Valzin. Joueur, boursicoteur, escroc et proxénète. Passé par le contre-espionnage français, Esterházy vend des documents secrets aux Allemands pour essuyer ses dettes depuis le 20 juillet 1894. Des documents de merde, hein, s'entend. Des miettes. Et il tente même d'escroquer Schwarzkoppen en lui vendant pour neuve une vieille édition d'un règlement d'artillerie. De plus, il est dans une logique de maître-chanteur. Quand Schwarzkoppen, qui en a ras-le-bol de se faire bananer, décide de se passer de ses services, il fait paraître dans la libre parole des articles dénonçant l'espionnage allemand. Ce qui fait peur à Schwarzkoppen, qui accepte de recommencer à le payer pour ses brèmes. Il peut jouer sur les deux tableaux, parce qu'Esterházy est aussi un collaborateur de la libre parole de Drumont. Et c'est là où ça devient abyssal. Esterházy, le vrai coupable, le vrai traître à la France, est entre 1894 et 1897 documentaliste à la libre parole. Il donne des infos à un commandant en retraite, un certain Bio, qui signe une chronique dans la libre parole sous le pseudonyme de Commandant Z. Est-ce que Drumont, alors qu'il s'acharne contre un innocent dans son torchon, sait qu'il abrite alors le vrai coupable? Soyons justes. A priori, non. Il s'est sans doute fait lui-même bananer par Esterházy, bananeur professionnel. Le bananeur va être découvert de deux façons différentes. Fin 1897 par son banquier, Jacques de Castro, qui reconnaît l'écriture d'Esterházy sur le bordereau, fraîchement publié dans une publication reproduisant les documents en fac-similé. Et par le lieutenant-colonel Georges Picard, qui remplace Sander au renseignement à partir de 1895. Parce que toujours dans les poubelles de l'ambassade, Picard tombe sur ce qu'on appellera le Petit Bleu. Le Petit Bleu, une carte écrite par von Schwarzkoppen et adressée à Esterházy, où il lui demande une explication plus détaillée sur un point resté en suspens, ainsi qu'une autre lettre du bananeur qui confirme leur relation. En découvrant la lettre d'Esterhazy, Picard reconnaît la même écriture que sur le bordereau qui a servi à incriminer Dreyfus.
Bon Dieu, mais c'est bien sûr.
C'est là que ça va devenir encore plus ludaire. Quand Picard dénonce Esterhazy à l'état-major, plutôt que de le féliciter d'avoir trouvé le vrai coupable, l'armée le mute en Tunisie pour lui faire bien fermer sa gueule. Oui, l'armée préfère qu'on trahisse la France plutôt qu'on ne révèle qu'elle a commis une erreur judiciaire. L'armée française ne défend pas la France. L'armée française se défend elle-même. Elle fait pire. Le commandant Henri, pressé par sa hiérarchie de grossir son dossier de merde, fabrique alors une fausse preuve pour, selon ses mots, faire renaître la tranquillité dans les esprits. Cette pièce, c'est ce qu'on appellera le faux Henri. Une fausse lettre, écrite par lui, attribuée à Panizzardi, l'attaché militaire à l'ambassade d'Italie, et soi-disant adressée à Schwarzkoppen. Une lettre au style mal imité, faite dans l'urgence et remplie de pseudo-italianisme.
Ravioli.
Je vais lire le faux Henri. J'ai lu qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Si on demande à Rome nouvelles explications, je dirai que jamais j'avais des relations avec ce juif. C'est entendu. Si on vous demande, dites comme ça, car il ne faut pas qu'on sache jamais personne ce qui est arrivé avec lui. Puis Henri accumule les malversations. Il va même jusqu'à truquer la preuve trouvée par Picard, le fameux « petit bleu », dont il gratte frénétiquement le nom d'Esterhazy pour faire croire que Picard a effacé le nom de Dreyfus, qui serait le vrai coupable. Mais les informations viennent malgré tout à Mathieu Dreyfus, qui porte plainte auprès du ministère de la Guerre contre Esterhazy. Mieux, une des anciennes maîtresses d'Esterhazy, pour se venger de sa muflerie de queutard égoïste, donne au Figaro des lettres de celui-ci, des lettres dans lesquelles il exprime sa haine de la France et son mépris de l'armée. Esterhazy, fascinant méchant de roman feuilleton, une espèce de fantomas fantasmé, s'y dit disposé à faire tuer 100 000 Français avec plaisir. Et il rêve du spectacle de Paris, pris d'assaut et livré au pillage de 100 000 soldats ivres. Waouh ! Que va faire l'armée ? Je sens qu'on va pas être déçu. L'armée intente un procès contre Esterhazy, mais devant le conseil de guerre et à huis clos, pour que personne ne sache ce qui va s'y passer. Et avant ce procès, elle briefe Esterhazy par l'intermédiaire de lettres mystérieuses signées d'un nom de femme, Espérance, puis elle envoie son bozo du Paty de Clam déguisé avec une fausse barbe retrouver Esterhazy dans le parc Montsouris afin de s'assurer qu'il ne va pas faire nimpe pendant le procès. Alors Esterhazy fait où on lui dit de faire. Et après 3 minutes seulement de délibérer, il est acquitté à l'unanimité. Puis l'état-major fait arrêter Picard pour violation du secret professionnel. Super cette armée française, vraiment super. Elle inspire confiance. On en voudrait une comme ça. Le 12 novembre 1897, Bernard Lazare publie une deuxième brochure. Une erreur judiciaire, l'affaire Dreyfus. Ça commence à bouger du côté de la défense. Lucien Herr, bibliothécaire de l'École normale supérieure, monte un réseau de Dreyfusards, parmi lesquels Peggy, bien sûr, mais aussi le futur historien génial et robespierriste Albert Mathier, et puis Octave Mirbeau, Félix Fénéon, Marcel Proust. Ils commencent à être de plus en plus nombreux, et célèbres, et influents, les convaincus de l'innocence de Dreyfus. Et parmi eux, le merveilleux écrivain Marcel Schwab, auteur entre autres du Livre de Monel, de la croisade des enfants et d'essai sur François Villon et le jargon des coquillards. Jeune, Schwab avait été très ami avec Léon Daudet, devenu disciple de Drummond et sans surprise, antisémite et anti-Dreyfusard à plein temps. Dans ses souvenirs, au sujet de son « ami juif », Léon Daudet a le culot de s'étonner. Il fut happé par le dreyfusisme. Je me suis souvent demandé à quelle mystérieuse affinité ethnique profonde, à quel mystérieux appel de la race avait correspondu cette fureur dreyfusienne qui le sépara de moi. Mais sombre idiot ! Au lieu de chercher des mystérieux appels de la race, allô ! C'est tout simplement parce que ton copain a étudié le dossier, lui, et compris que Dreyfus était innocent. Ce que tu aurais compris très facilement, toi aussi, si tu n'avais pas répondu à un mystérieux appel du racisme. Enfin, le 13 janvier 1898, Émile Zola publie « J'accuse » dans le journal L'Aurore, une attaque directe contre tous ceux qui ont trempé dans ces mensonges, y compris le ministre de la guerre et l'état-major. 300 000 exemplaires de L'Aurore sont vendus, dont 200 000 en quelques heures. L'idée de Zola, très bonne et très courageuse, est de s'exposer volontairement afin de forcer les autorités à le traduire en justice, ce qui entraînerait un nouvel examen, mais public cette fois, de Dreyfus et d'Esterhazy. Et ça marche. Zola passe devant les assises de la Seine du 7 au 23 février 1898. Son avocat fait comparaître près de 200 témoins. Zola est condamné à un an de prison et 3000 francs d'amende, mais la réalité de l'affaire Dreyfus est enfin connue du grand public. Et ça change tout. Mathieu Dreyfus dépose sa demande de révision au Conseil de guerre. Entre-temps, devant le Conseil d'enquête, Esterhazy, pris de panique, a avoué ses rapports secrets avec le commandant Dupaty de Clam. Et le commandant Henri est parti en sucette. Il a fait des aveux complets avant de se trancher la gorge une fois en cellule. La demande en révision du procès finit par être acceptée en 1899. Le 9 juin, après 5 ans en enfer, Dreyfus quitte l'île du diable pour son nouveau procès. Encore une fois par le conseil de guerre, encore une fois en huis clos. Et Dreyfus est à nouveau reconnu coupable par le conseil de guerre le 9 septembre 1899. Mais quelle bande de...
C'est vraiment un gros tas de merde.
On doit quand même nuancer. Il est reconnu coupable, mais avec circonstances atténuantes. Quoi ? En fait, ils savent que leur dossier est vide, que tout le monde est désormais au courant de leur arnaque monumentale, mais toujours stupidement fiers, ils ne veulent pas admettre leur faute. En le jugeant coupable avec circonstances atténuantes, ils rendent possible une grâce présidentielle. Grâce que propose le nouveau président, Waldeck Rousseau. Et Dreyfus accepte. Il n'en peut plus, il préfère, et on le comprend, être libre, même s'il n'a pas été innocenté. Il faudra attendre le 12 juillet 1906 pour que la Cour de cassation prononce l'arrêt de réhabilitation du capitaine Dreyfus. Dreyfus est réintégré dans l'armée avec le grade de chef d'escadron. Il ne demande ni dédommagement à l'État, ni dommages et intérêts à qui que ce soit. Un ravagé lui tirera quand même dessus au revolver lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon. Ce ravagé, c'est Louis Grégory, un collaborateur de Drummond. Faut voir le manque à gagner depuis la fin de l'affaire Dreyfus. La libre parole a chuté de 450 000 à 100 000 exemplaires. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, un autre torchon l'a remplacé, l'Action française. Parce que ce à quoi on va également assister, à la fin de cette affaire Dreyfus, c'est à l'apparition de l'Action française. L'Action française, à la fois parti politique et revue, née en juillet 1899 sous la direction de Charles Maurras, transformée en quotidien en mars 1908. Maurras, né en 1868 dans les Bouches-du-Rhône, démarrant sa carrière comme critique littéraire, mais avec des goûts de chiottes, à la différence de son pote Léon Daudet. Maurras est athée et positiviste. Mais il est littéralement hypnotisé par l'idée de la France éternelle, royaliste et catholique, seule garante pour lui de l'ordre et de la conservation de la hiérarchie sociale. On affirme à juste titre que l'Action de l'Action française. Oui, c'est le premier grand geste public de Charles Maurras. Une apologie du faux Henri, publiée dans la Gazette de France en septembre 1898. Je vais citer Maurras. Force, décision, finesse. Rien ne vous a manqué, si ce n'est un peu de bonheur sur votre dernier jour. Vous avez déployé des dons supérieurs d'initiative et de résolution. Vous les avez employés avec frénésie, jusqu'à tromper vos chefs, vos amis, vos collègues et vos concitoyens. Mais il est vrai, pour le bien et l'honneur de tous. Oh Henri, dis-moi oui.
Dis-moi oui, chérie.
On croirait une parodie. C'est pas une parodie. Ou alors toute l'Action française est une parodie. L'Action française naît de l'apologie d'un faux en écriture. L'Action française naît de l'apologie de la condamnation d'un innocent comme de la protection d'un traître détestant son pays. Et le disant. Et tout l'amour de la France professé par ce parti d'abrutis sera de la même farine. À l'Action française, la constante sera de se contrefoutre totalement de la vérité. Se contrefoutre des faits. La seule chose qui compte, c'est la ligne politique. Et alors que son innocence sera depuis longtemps établie, l'Action française continuera à publier sur Dreyfus des textes diffamatoires. C'est au point que Dreyfus leur intentera plusieurs procès, auxquels Maurras répondra dans son journal « Le traître juif entrevoit en frissonnant les 12 balles qui lui apprendront enfin l'art de ne plus trahir et de ne plus troubler l'ordre de ce pays qui l'hospitalise. » C'est de ce niveau, l'antisémitisme inventé par Drumont, se développer comme un anticapitalisme mollasson qui ne touche pas la grande bourgeoisie et détourne la colère populaire sur un bouc émissaire, les Juifs, coupables de tous les maux. L'antisémitisme de Maurras a surtout le rôle d'excitant pour promouvoir le retour à une France monarchique héréditaire, catholique, où la culture classique serait hégémonique, où les hiérarchies sociales seraient imposées d'en haut et où les Juifs et les étrangers n'auraient pas les mêmes droits que les Français de souche. C'est l'idée d'un redressement national, d'où le fait que les Juifs soient avant tout décrits comme des ennemis de l'intérieur. Et voilà la petite combine. Si vous ne voulez pas des Juifs, retournez à la France d'avant Robespierre et Rousseau. Et Maurras va être rejoint par deux collaborateurs principaux. Léon Daudet, donc, né en 1867, et l'historien en carton-pâte Jacques Bainville, né en 1879. L'Action française est la première extrême droite au sens contemporain du terme, dans le sens où c'est un mixte entre des courants nationalistes, royalistes, antisémites, mais réalisé par des mecs modernes, qui ne croient pas tellement à leurs conneries, et pas du tout en Dieu, mais qui s'en foutent. Parce que pour eux, la vérité n'a aucune valeur. La fin justifie les moyens. Tout ce qu'ils font, ils le font dans un but politique, celui du redressement national, le retour à l'ordre perdu de la France d'hier. Et le petit système idéologique de nos trois petits cochons fonctionnera si bien qu'il pourra même être repris après-guerre, presque sans le modifier, par l'extrême droite actuelle, en ajoutant les Arabes, nouveaux ennemis de l'intérieur. Oui, oui, les musulmans sous taqiya. Et dans les deux cas, en faisant main basse sur la figure de Jeanne d'Arc, avec ceci de comique, que Maurras, germanophobe tapageur quasiment toute sa vie, par nationalisme, par bellicisme, et aussi sans doute par étroitesse d'esprit, va soutenir l'armistice et le régime de Pétain. On va y venir. Enfin, il y a un autre point sur lequel l'Action française invente vraiment l'extrême droite moderne. Ils publient des livres pour arnaquer leur public. Comme Bainville, qui pond une plaquette dans laquelle il t'explique comment placer ton fric. Comment placer sa fortune ? Ceci n'est pas une blague. Ce livre existe. J'ai ce livre. Bref, cette culture antisémite française, à la fois réponse au mouvement révolutionnaire communiste et anarchiste et tentative de consolidation d'une droite qui ne sait plus trop qui elle est et où elle va durer pendant un bon demi-siècle. Et elle va totalement infuser la société, à toutes les échelles de celle-ci. On la retrouve jusqu'en 1942 dans les décombres de Rebatté. Lucien Rebatté, ancien de l'Action française, il les trouvait trop mous. Figure de proue de l'hebdomadaire « Je suis partout », journaliste et écrivain fasciste militant. Les décombres, best-seller de l'occupation, 65 000 exemplaires vendus et encore il y a eu pénurie de papier. Je cite Rebatté. « Les Juifs savouraient toutes les délices. Chair, vengeance, orgueil, pouvoir, ils couchaient avec nos plus belles filles. Tu ne devrais pas dire ça, c'est ce que les jeunes appellent un CSC, un contre son camp. En remontant les Champs-Élysées, où ils se vautraient dans les beaux bras de leurs esclaves chrétiennes. Ça, à mon avis aussi, tu retires, ça fait incel. Je repassais dans ma tête toute la suite des édits implacables qui jalonnaient pour les juifs l'histoire de la France. Et on est reparti dans le roman national à la con. Je voyais de Philippe le Bel à Louis XVI se déroulait ce long cours de siècles féconds. Tu te calmes sur le vocabulaire séminal. Mon pays ne cessait de grandir, où il était le plus puissant du monde. Il se calmera pas. Où il vivait sans juifs. Il avait fallu le dogme insane de l'égalité des hommes. Bingo ! Robespierre, encore une fois. Pour qu'il pût à nouveau se faufiler parmi nous en déchirant ses passeports d'infamie. Le juif était l'universel profiteur de la démocratie. Ah ! Mais dans le long cours de siècles féconds où ton pays ne cessait d'enfler, enfin pardon, de grandir. Si tu faisais partie du peuple, tu n'étais pas beaucoup mieux loti qu'eux. Pour qui tu te prends? Pour le marquis Lucien de Rebatté? Il le flatte lorsqu'il juge nécessaire de le duper. Mais au fond, il y a vraiment une haine du peuple chez les fascistes. Pire, un mépris. Rebatté encore. Dans les décombres encore. Et là, je ne vais même pas commenter. Ça se passe de commentaires. Le triomphe du Front populaire en 1936 était un événement providentiel. Il avait fallu cette grande éruption marxiste pour que l'Italie et l'Allemagne fissent leur renaissance, comme si cette maladie purgeait le sang des nations. Jules Renard, dont j'aime à croire qu'il n'eût jamais été un socialiste à la mode du Front populaire, disait 30 ans plus tôt au Butte-Chaumont « Oui, le peuple, mais il ne faudrait pas voir sa gueule. Les dieux savent si on la voyait. Ça défilait à tout bout de champ, pendant des dimanches entiers, sur le tracé rituel de la République à la nation. Il y avait encore à profusion le prolétaire bien nourri, rouge, frais et dodu dans une chemisette de soie, un pantalon de flanelle, d'étincelants souliers jaunes, qui célébrait avec une vanité rigolarde l'air des vacances à la plage, de la bagnole neuve, de la salle à manger en noyer lévitant, de la langouste, du gigot et du triple apéritif. Rebatté n'aime pas beaucoup voir le peuple manger à sa faim, on a compris. Mais ce qu'il craint surtout, c'est ce qui, selon lui, se profile derrière. C'est-à-dire, ne riez pas, la fin de la race blanche. Je cite Rebatté. Les divisions des nègres américains et les divisions kalmouks se répandaient sur l'Europe. Oui, le grand remplacement de Renaud Camus, c'est pas nouveau, c'est déjà chez Rebatté. Entre leurs hordes, le pullulement des juifs. Yep! Les juifs cosmopolites qui décident de métisser la France afin qu'elle disparaisse, c'est pas nouveau non plus. C'était des millions de métis bientôt. Le rêve des juifs. La race blanche frappée de mort. La France est en danger de mort. Oh là là ! Comme Zemmour et De Villiers, le même slogan débile. La France est en danger de mort ! Toute la rhétorique pourrie des racelards de notre époque est déjà chez Rebatté.
Je pense que la France, telle que nous l'avons connue, est en danger de mort.
Je continue à citer. L'espérance, pour moi, est fasciste. Le fascisme reconnaît, protège et encourage la famille, la propriété, l'émulation qui sont à la base de l'existence. Il ne tend pas à niveler la société ce qui serait l'avilir. Il rétablit au contraire la hiérarchie des mérites, disloquée par la démagogie. Il restaure le pouvoir autoritaire, le seul naturel. Je veux bien. Mais s'il s'avère que dans la hiérarchie des mérites, tu sois naturellement voué à récurer le fond des chiottes. Mon petit Lulu, tu espères toujours ? Mon sentiment le plus net était une admiration grandissante pour Hitler. Je crois que Hitler a conçu pour notre continent un magnifique avenir et je voudrais passionnément qu'il se réalisât. On me reprochera en 1942 comme une flagornerie ce mot qui paraîtra si naturel dans 10 ans. Admiration universelle pour Hitler en 1952 ? Pas un grand visionnaire, le Rebatté. À noter qu'après-guerre, après avoir été condamné à mort puis gracié, Lucien Rebatté sera un fervent soutien d'Israël, mais oui, que ce soit par cynisme ou par une authentique admiration pour leur puissance guerrière. Le plus violemment antisémite des collaborateurs pro-hitlériens va devenir le plus pro-israélien des journalistes et écrivains d'extrême droite. Au micro de Jacques Chancel en 1969. Alors là, je vais le lire, mais on a l'audio. Avec sa sale voix, parce qu'il a vraiment une voix ignoble. J'ai compris depuis que la question israélite ne relève pas de la race.
Les races, c'est les noirs, c'est les blancs, c'est les jaunes. Les juifs sont des blancs absolument comme nous. Ce n'est pas du tout que je sois hostile aux arabes. Mais je ne vous cacherai pas que j'ai pris parti pour Israël pendant la guerre de six jours. Ce qui m'a paru d'ailleurs normal.
Et puis j'aime le succès, d'un point de vue militaire. Nous avons encaissé tellement de défaites.
Ça me fait plaisir de voir un général victorieux avec un certain génie, comme le général Moshe Dayan.
C'est énorme. Du coup, Lucien, quand tu remontes les Champs-Élysées, ça se passe comment? Le passage en revue des édits implacables qui jalonnent ton histoire de France. Philippe le Bel, Louis XVI, les passeports d'infamie, tout ça. Finito ?
Finito ?
Rebatté ne sera pas le dernier antisémite maquillé vite fait en soutien d'Israël. Mais c'est pas le premier non plus. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais l'un des premiers Français célèbres à soutenir le projet sioniste défendu par Théodore Herzl était Drummond ! Drummond ? Drummond. On restera bons amis, écrit Drummond. On voisinera, mais enfin, on aura chacun son chez-soi. Oh ! Non sans approximation et arrière-pensée, écrit Grégoire Kaufmann. Il n'a de cesse de présenter le sionisme comme une réponse logique aux questions posées par l'antisémitisme et prétend soutenir dans son journal l'œuvre de Herzl. Ouah ! Bref, toute cette bouillie intellectuelle, politique et morale aura plus que contribué à ce qui va se jouer en France entre 1940 et 1944. La collaboration, donc. Ce qui a amené la défaite de la France face à l'Allemagne nazie, on nous le répète souvent, c'est le percement de la ligne Maginot, du nom du ministre Maginot, André Maginot, mort en 1932. Mais là-dessus, comme sur beaucoup de choses, faut pas se faire gaslight, comme disent les jeunes. Philippe Pétain, en tant que militaire décoré consulté par les autorités, s'était montré sceptique sur l'efficacité de la ligne Maginot. Il ne s'était pas opposé, mais persuadé qu'elle ne servait à rien, il avait quand même réussi à convaincre de ne pas la prolonger jusqu'aux Ardennes. Il a insisté sur le fait que l'hypothèse d'une invasion par les Ardennes était à exclure en raison de la nature du terrain. C'est sa déclaration devant la commission sénatoriale de l'armée le 7 mars 1934. Je cite « Ce front n'a pas de profondeur, l'ennemi ne pourra s'y engager, donc ce secteur n'est pas dangereux. » L'avenir, écrit Le Naour dans son livre sur Pétain, prouvera qu'il s'est lourdement trompé. En effet, les Allemands sont passés par les Ardennes. Malheureusement, l'avenir ne nous prouve pas seulement que Pétain s'est lourdement trompé, mais que quasiment à chaque moment de sa vie, un peu comme Esterhazy auquel il ressemble sur pas mal de points, tous deux queutards égoïstes et dotés d'une absence totale d'intérêt pour l'art et la littérature, il a réussi à bananer tout son petit monde. Parce que Pétain était quand même très bon à un truc, faire crari, je suis celui qui sait ce qu'il vous faut. Philippe Pétain, qui est-il ? Né le 24 avril 1856 à Cauchy, dans le Pas-de-Calais, dans une famille de cultivateurs catholiques aisés. Il a 58 ans lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Il est alors promu général de division et on le présentera comme le vainqueur de la bataille de Verdun.
Et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays.
Enfin, pas tout le monde. Ni Joffre, ni Foch, ni Clémenceau n'attribuent la victoire de Verdun à Pétain. On va reprendre. Tout d'abord, l'enrayement de l'offensive allemande le 26 février, avant même que Pétain ne soit arrivé, est dû à l'initiative du général Castelnau, oublié de l'histoire. Le sauveur de la rive droite de Verdun est Castelnau. Ensuite, Pétain commande les troupes à Verdun de fin février à fin avril. 2 mois. Mais les 7 derniers mois, c'est Nivelles qui dégage définitivement la région, repousse les Allemands sur leur base, fait 12 000 prisonniers et prend 1 500 canons. Le sauveur de la rive droite est Castelnau, le sauveur du reste de Verdun, c'est Nivelles, secondé par Mangin. Pétain, c'est pas le sauveur. Il est juste passé par Verdun. Alors pourquoi on attribue cette victoire à Pétain? Eh ben, un, Nivelles s'est viandé ensuite sur le chemin des dames et on a préféré l'oublier. Tandis que deux, Pétain faisait bien le job. Il faut vendre des héros au public, il leur faut des grands hommes. Et trois, alors que la plupart des généraux de l'époque étaient monarchistes, Pétain ne faisait pas de politique. C'est pour ça que nos politiques l'ont élevé à la dignité de maréchal de France par décret le 21 novembre 1918. En 1925 et 1926, il commande les forces françaises combattant aux côtés de l'Espagne dans la guerre du Rif. Il envoie des armes chimiques sur la population civile, du gaz moutarde. Oui, c'est ce genre de mec. Il fait ce genre de truc. Longtemps, Pétain sera discret sur ses opinions. Il n'est pas publiquement anti-Dreyfusard lors de l'affaire Dreyfus. Est-ce parce qu'il ne l'est pas? Ou est-ce par tactique? Afin de se mettre les gars de toutes les tendances dans sa poche, on ne sait pas. Mais cette image d'un militaire non partisan perdurera durant presque tout l'entre-deux-guerres. Pourtant, il va devenir populaire auprès des ligues d'extrême droite. Ce qui lui permet d'obtenir, après les émeutes antiparlementaires du 6 février 1934, le poste de ministre de la guerre dans le gouvernement Doumergue. Poste qu'il occupe jusqu'au renversement du cabinet le 8 novembre 1934. Alors, il devient une sorte de figure messianique de l'extrême droite. Le Petit Journal lance un concours auprès de ses lecteurs pour leur demander qui ils aimeraient avoir comme dictateur. Eh ben, Pétain arrive en tête. Est-ce juste parce que c'est une espèce de vieux pseudo-héros de guerre? Ou est-ce parce qu'ils savent qu'il est plus politisé qu'il n'en a l'air? On ne sait pas. Que Pétain ait été d'extrême droite par conviction initiale personnelle, ou qu'il le soit devenu par clientélisme, reste que désormais ce type, qui n'a pas d'enfant, qui ne lit jamais de livres, qui ne croit pas en Dieu et qui a partagé quasiment tout son temps de loisirs entre les maîtresses et les prostituées. Et c'est OK, comme disent les jeunes. Ce type commence alors à développer des discours publics sur la déchéance morale du pays. L'esprit de jouissance qui a gangréné les esprits, le besoin d'ordre et d'autorité, l'échec de la démocratie, l'importance de la famille, la nécessité de retourner à la France d'antan. Et ça, c'est pas du tout OK!
Que mes valeurs, elles n'ont jamais changé.
Donc vous dites ni LFI, ni
RN. C'est le mérite, le travail, la famille, la patrie.
Non mais on croit rêver! Et le 17 mai 1940, une semaine après que l'armée allemande a percé par les Ardennes, Pétain, 84 ans, le vainqueur de Verdun et mon cul sur la commode, est nommé vice-président du conseil dans le gouvernement de Paul Reynaud. Immense connerie, rappel! Il avait dit que les Allemands ne passeraient pas par les Ardennes. Il s'est trompé, on le récompense! Ce grand homme. Et une fois entré dans le gouvernement de Paul Reynaud, Pétain n'a qu'une obsession, l'armistice. Pour lui, il faut se soumettre tout de suite aux Allemands, sans plus attendre. Il le dit et le répète. Les Français doivent travailler activement avec les Allemands. Ça leur donnerait, dit-il en contrepartie, plus de liberté d'action. Et ça, c'est complètement dingue comme idée. Pourquoi? Parce qu'en 1940, le degré de violence assumée, de mépris des autres nations et d'indifférence à la parole donnée d'Hitler avait déjà été plus que largement documenté. En 1940, tout le monde sait qu'on ne peut, à aucun niveau, travailler avec Hitler. Nulle part, jamais. Mieux, Hitler avait écrit dans Mein Kampf tout le mal qu'il pensait de la France et des Français. L'ennemi mortel, l'ennemi impitoyable du peuple allemand est et reste la France. Et parce que ça me semble tout de même un peu trop sobre. Dans un passage plus représentatif de son style bien à lui, alors accrochez-vous, hein, c'est de la bouillie, pour que les troupes marxistes qui mènent le combat au profit du capital juif international puissent définitivement casser les reins à l'État national allemand. Elles ont besoin d'un concours amical venu du dehors. Aussi, les armées de la France doivent donner des coups de boutoir à l'État allemand jusqu'à ce que le Reich ébranlé dans ses fondations succombe aux attaques des troupes bolcheviques au service de la finance juive internationale. Le rôle que la France, aiguillonnée par sa soif de vengeance et systématiquement guidée par les Juifs, joue aujourd'hui en Europe, est un péché contre l'existence de l'humanité blanche et déchaînera un jour contre ce peuple tous les esprits vengeurs d'une génération qui aura reconnu dans la pollution des races le péché héréditaire de l'humanité. Du Hitler dans le texte. C'est avec ça, Pétain, que tu penses pouvoir travailler activement? L'épisode n'est pas sur Hitler. On ne fera pas ici la généalogie du nazisme ni de l'antisémitisme en Allemagne. Si ça vous intéresse, vous pouvez commencer par regarder l'ABCDR de Chapoutot sur Blast. Mais avec un tout petit peu de recul historique, il n'était pas difficile de percevoir la stratégie d'Hitler à l'international, car celle-ci n'était en rien nouvelle. Comme l'expliquait alors Simone Veil, sa stratégie remontait à César. Nous en avons connu deux de la même farine en France, Louis XIV et Napoléon, des traîtres notoires à la parole donnée. Mieux ! Faisant de la trahison de la parole donnée un élément essentiel de leur stratégie. Je cite Simone Veil. « Si quelqu'un fait penser à Hitler par la barbarie, la perfidie préméditée, l'art de la provocation, l'efficacité de la ruse, c'est bien César. Ce qu'Hitler a ajouté de proprement germanique aux traditions romaines n'est que pure littérature et mythologie fabriquée de toutes pièces. » Oui, et puis en mai 1940, il n'y avait plus trop de doute qu'un pacte avec Hitler était toujours aux dépens de celui qui le faisait avec lui. À gros traits, tout d'abord. Les nazis annexent l'Autriche en mars 1938. Puis ils se fixent pour objectif la région allemande de la Tchécoslovaquie, les Sudètes. Et les démocraties occidentales, France et Grande-Bretagne en tête, décident de les laisser faire. Ce sont les fameux accords de Munich qui laissent Hitler annexer les Sudètes sous condition qu'il n'occupe pas le reste du pays. Accord violé dès mars 1939, quand l'armée allemande conquiert le reste du pays. Puis, été 1939, c'est au tour de la Pologne. Pologne que Hitler veut faire disparaître comme nation. Ce qu'il déclare le 22 août 1939 et qu'il peut conquérir à la faveur du pacte germano-soviétique le 23 août. Pologne, dont il fait exécuter 60 000 civils appartenant aux classes supérieures et dont il transforme le reste de la population littéralement en bêtes de somme pour les travaux nécessaires à l'édification d'un empire germanique à l'Est. Et Hitler déclare aux troupes SS... Genghis Khan a volontairement et de gaieté de cœur fait massacrer des millions de femmes et d'enfants. L'histoire n'a retenu de lui que l'image d'un grand bâtisseur d'empire. Aussi pour l'heure, j'ai envoyé à l'Est mes seules unités à tête de mort, avec ordre de tuer sans pitié ni merci tous les hommes, femmes et enfants de race ou d'origine polonaise. Qui parle encore de nos jours de l'extermination des Arméniens ? Dans quelle version de la réalité ce monsieur est une personne digne de confiance ? Dans quel monde on peut imaginer pouvoir travailler avec lui ? Alors certes, les Allemands ont percé la ligne Maginot par les Ardennes. Mais le gouvernement français aurait très bien pu se réfugier à Londres et continuer la guerre sous la forme d'une union franco-britannique. C'est ce que leur proposait Churchill. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Paul Reynaud a préféré démissionner et confier la présidence du Conseil à Pétain. Mais il vous a fait quoi, ce mec ? Il vous a hypnotisé ? On est le 16 juin 1940. Dès le lendemain, armistice. C'était couru d'avance. Pétain annonce qu'il fait don de sa personne à la France.
Je fais à la France le don de ma personne.
Garde ta personne pour toi, Pépère. Elle doit être un nid de maladies vénériennes. Le 10 juillet 1940, au casino de Vichy, l'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain. Il s'octroie le lendemain le titre de chef de l'État français. La France n'est alors plus une république, mais un régime sans contrôle parlementaire. Bienvenue dans l'inconnu. Désormais, Pétain fait absolument tout ce qu'il veut. Les libertés publiques sont suspendues, les partis politiques également, à l'exception de ceux des collaborationnistes parisiens, subsistant en zone nord. Les centrales syndicales sont dissoutes. De Gaulle, qui a lancé depuis Londres l'appel du 18 juin à poursuivre la résistance, est condamné à mort par contumace. Et on met en place un culte de la personnalité de Pétain. On met des photos de sa tête de con dans les vitrines des magasins, sur les murs des écoles, sur les timbres et les calendriers. Entre 750 et 1000 rues sont renommées de son nom. Même le quai du port de Marseille devient du jour au lendemain quai du maréchal Pétain. Des bustes sont produits en série et installés dans les mairies. Des affiches demandent « Êtes-vous plus français que lui ?» D'autres exigent que chaque Français achète son portrait et l'installe en évidence dans son salon. Vous lui devez une place d'honneur dans votre foyer. Et Pétain est salué par les hommes d'église comme un homme providentiel. Maurras, déposant un voile discret sur 50 ans de germanophobie, parle de l'arrivée de Pétain au pouvoir comme d'une « divine surprise ». Les lois, adoptées de sa seule autorité, sont promulguées avec la formule « Nous, Maréchal de France, le Conseil des ministres entendu, décidons. Ok, Louis XIV. Enfin, le 13 août 1940, Pétain lance ce qu'il appelle la Révolution nationale. Plus exactement, une contre-révolution, fondée sur l'autorité, la hiérarchie, l'inégalité entre les citoyens. La Révolution nationale est une mise à mort de la Révolution française. Sa devise, travail, famille, patrie, est empruntée aux croix de feu. Et Pétain prévient que le nouveau régime sera une hiérarchie sociale. Il ne reposera plus sur l'idée fausse de l'égalité naturelle des hommes, mais sur l'idée nécessaire de l'égalité des chances données à tous les Français de prouver leur aptitude à servir. Robespierre et Rousseau, still the enemies, même en 1940. Pétain va pouvoir faire la misère à tout le monde. Puisque la défaite est présentée comme la conséquence non de son idée à la con que les Allemands ne perceraient pas par les Ardennes, mais de ce goût de la vie tranquille, cet abandon de l'effort qui nous a amenés là où nous sommes. Ouah ! Le coupable, selon Sherlock Pétain, qui a oublié qu'il avait été queutard professionnel, comme Maurras a oublié qu'il était germanophobe. C'est l'esprit de jouissance qui a triomphé lors du Front populaire.
Le maréchal Pétain parle à la France.
L'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur.
Et c'est peut-être encore plus sombre. L'historiographie. Depuis les travaux d'Henri Michel, de Robert Paxton et de Jean-Pierre Azéma, jusqu'à ce plus récent de Laurent Joly, a démontré que le choix de l'armistice de Pétain en juin 1940 n'était pas poussé par la nécessité, mais par le désir de pouvoir enfin redresser la France avec sa révolution nationale de merde. Celle-ci était impossible dans une France libre. Seule la défaite pouvait lui permettre de mettre en accusation les institutions républicaines et de développer son programme de réforme.
Je vous dis bien haut, Français, méditez vos malheurs.
Campagne contre l'alcoolisme. Divorce rendu quasi impossible. Avortement réprimé de mort pour les médecins avorteurs. Loi contre le travail des femmes, les renvoyant au foyer de gré ou de force. Interdiction des bals. Et on redonne du mojo à l'église. Pétain n'est pas plus croyant que Maurras, mais il se rend désormais tous les dimanches à la messe. Les principales victimes de Pétain seront les juifs. Évidemment, c'est pas une question.
La France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire.
Dès le 17 juillet 1940, l'épuration commence. On lance une grande révision des naturalisations opérées depuis 1927. 15 154 personnes perdent la nationalité française, dont 40% de juifs. Et avec la loi du 3 octobre 1940, Pétain instaure une législation antisémite. Ce n'est pas à la suite d'une demande particulière de la part des Allemands. C'est un choix de Pétain lui-même. C'est peut-être ce qu'il appelle avoir de la liberté d'action. Et le 2 juin 1941, tous ceux dont un des grands-parents est juif sont exclus de la plupart des fonctions publiques, de la politique, du cinéma et de la presse.
Sur 100 Français de vieilles souches françaises, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du juif.
Enfin, pour couronner l'horreur par la bouffonnerie, on rend en octobre 1941 un hommage à Édouard Drumont. On impose une plaque sur sa maison, en présence de Madame Veuve Drumont, assise sur une chaise. La solution finale est formulée par les nazis en janvier 1942. En France, c'est 6694 juifs étrangers, polonais pour la plupart, qui reçoivent une convocation pour examen de situation. Ceux qui répondent à la convocation, plus de la moitié, sont déportés le jour même. Et dans leur majorité, ils sont exterminés à Auschwitz-Birkenau en 1942. Mais dès la fin du mois de juin 1942, c'est la rafle du Vélodrome d'hiver. 13 000 juifs, hommes, femmes et enfants, raflés les 16 et 17 juillet. Pas besoin des Allemands, ce sont des Français qui arrêtent et déportent. En tout, 78 000 juifs déportés de France sous l'occupation, dont 80% ont été arrêtés par la police française et dont 24 000, le tiers, avaient la nationalité française. Pour les non-juifs, c'est certainement pas du même niveau, mais je doute que ça fasse envie à grand monde. Le 4 septembre 1942, Pétain promulgue le service du travail obligatoire, le STO. Travail obligatoire au service, pas de la France, hein, comprenez bien. Travail obligatoire au service des nazis. Mais oui. Et le STO organise le départ forcé de plus de 650 000 Français random pour travailler au renforcement militaire et industriel de l'Allemagne nazie, qui manque alors de main-d'œuvre et de matières premières, sans qu'on leur demande leur avis, sans qu'on leur explique où, comment ou pourquoi. Mesurez bien la chose. Plus du quart de la production agricole et industrielle française est livrée à l'Allemagne. 70% de la production automobile et 100% de la production aéronautique. Et pourtant, Pétain juge que ce n'est toujours pas suffisant. Faut faire encore un peu plus d'efforts.
Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore.
Dans un premier temps, on avait lancé une sorte de volontariat où on promettait la libération d'un prisonnier de guerre contre l'envoi de 3 travailleurs libres. On appelait ça la relève. Mais malgré un effort de propagande hors du commun, ça n'a eu aucun succès. Alors on a imposé un recrutement forcé. Les Français sont alors la seule population européenne contrainte par son propre gouvernement de travailler alors quasi exclusivement pour la victoire de l'Allemagne nazie. Tu l'apprécies toujours, ta plus grande liberté d'action ? Pétain a réussi cet exploit de rétablir, pour autrui et par zèle, l'esclavage sur sa propre population. L'atrocité du STO, du service de travail obligatoire, sera bien racontée dans le roman autobiographique de Kavana, Leruskov. De 6h à 18h, face à une presse froide qui transforme des galettes d'acier en cylindres, le jeune Kavana, 20 ans, n'a que quelques secondes pour retirer le cylindre avant que la presse reprenne. Et on exige de lui qu'il fournisse 10 000 caisses par jour. Il en peut tellement plus. Il est tellement épuisé par cet enfer que pour pouvoir obtenir un peu de repos, il laisse volontairement la presse lui trancher un doigt. J'ai pas tiré 3 semaines, raconte Kavana. J'ai tiré juste 5 jours et j'avais tellement mal que je courais dans le camp comme un fou, sans arrêt, jour et nuit. Je donnais des coups de pied et des coups de tête dans tous les poteaux. Ils m'ont refoutu au boulot que ça me cognait encore là-dedans à chaque battement de pouls avec une violence effroyable. Tu l'aimes toujours, ton armistice ? Puis en 1943, c'est la création de la milice française pour lutter contre la résistance. 30 000 hommes, dont beaucoup de gangsters et ex-prisonniers de droit commun, qui participent alors à la lutte contre la résistance en terrifiant la population pour leur propre plaisir. C'est ça l'aboutissement du patriotisme à la Pétain. Une mafia qui vole, viole, torture, tue qui elle veut, quand elle veut, avec l'excuse de combattre les membres les plus héroïques du pays. Un pays dans lequel les héros sont pourchassés, les innocents assassinés, les jeunes gens mis en esclavage et les gangsters récompensés. Tu y crois toujours à ta révolution nationale ? Il se redresse comme tu veux, ton pays. Pétain est à Saint-Étienne le 6 juin 1944 quand on l'informe du débarquement en Normandie. Alors, pas aussi gâteux qu'on voudrait bien nous le faire croire, Pétain essaye à nouveau de bananer tout le monde. Cette fois, il déclare avoir toujours été une sorte d'allié symbolique du général de Gaulle, un allié implicite de la résistance. Je cite Pétain. « S'il est vrai que de Gaulle a levé hardiment l'épée de la France, l'histoire n'oubliera pas que j'ai tenu patiemment le bouclier des Français. Fallait oser, c'est Pétain, il ose. » Mais bref, il y a un jour où même le meilleur bananeur ne banane plus personne. Pétain est mis en procès le 23 juillet 1945 devant la Haute Cour de justice. La Cour le déclare coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison. Il est frappé d'indignité nationale, condamné à la confiscation des biens et à la peine de mort. Peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité. Il meurt à 95 ans sur l'île Dieu. La dernière initiative vraiment admirable du monde politique français date de cette époque. C'est le programme du Conseil national de la Résistance, bien sûr, les jours heureux. Adopté à l'unanimité le 15 mars 1944 et appliqué après-guerre. Instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Nationalisation des grands moyens de production, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Rajustement des salaires, rétablissement d'un syndicalisme indépendant et plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tout cas où ils soient incapables de se le procurer par le travail.
Pas mal, non, c'est français.
Ce que ceux qui ont le pouvoir se sont acharnés à détruire toutes ces dernières années. Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF, l'a admis lui-même dans un éditorial du magazine Challenge en octobre 2007. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. Denis Kessler, sois plus clair. Défaire le programme du CNR, c'est revenir à quoi ? À celui de Pétain ? Au travail obligatoire ? En conclusion de Vichy, histoire d'une dictature dirigée par Laurent Joly, on peut lire. Vichy a montré ce que donnent les idées de l'extrême droite portées au pouvoir. Des mesures d'exclusion visant minorités injustement brimées et ennemis politiques plus ou moins imaginaires, accompagnées d'un fort investissement dans la propagande, la communication, afin de masquer le manque de moyens affectés aux vastes politiques sociales promises. Rien à redire, mais j'aimerais ajouter, Pétain a, il faut l'admettre, inventé quelque chose. Pétain a inventé l'homme qui se soumet à une puissance étrangère et qui soumet sa propre population, mais qui prétend rénover son pays en assassinant à la fois les plus fragiles et ceux qui ne veulent pas se soumettre. Il a inventé la lâcheté devant plus fort que lui, un vrai paillasson, mais mêlé à la violence exterminatrice face aux plus faibles dans son propre pays. C'est ça, Pétain. Louis XIV ou Napoléon étaient détestables. Mais ils avaient conquis des pays, fait toute leur guerre à la con, ils n'avaient pas signé d'armistice. Ils pouvaient bien prétendre au rôle de nouveau César. Pétain que dalle ! Le touriste de Verdun, mais qui prétend pourtant à l'admiration et même au culte de la personnalité. Le dictateur en carton-pâte. Il n'y a peut-être pas à s'étonner de voir tant de nos politiques d'aujourd'hui tenter plus ou moins sournoisement de le célébrer. Macron, qu'il appelle le maréchal, annulant symboliquement sa condamnation à l'indignité nationale.
Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà.
Et qui tient tant à distinguer le grand soldat de la Première Guerre mondiale de celui qui fait ensuite des choix funestes. Zemmour, bien sûr, qui célèbre en Pétain le sauveur des Juifs français.
Il a sauvé des Juifs français, oui.
On se demande bien dans quelle réalité alternative. Et déjà Mitterrand, qui allait fleurir sa tombe jusqu'à ce qu'il s'arrête à la suite de protestations 3 ans seulement avant sa mort. 3 paillassons. Pétain est peut-être le premier chef d'État français contemporain. Et c'est pas un compliment. Bilan de la Seconde Guerre mondiale. Les chiffres varient entre 50 et 70 millions de morts, soit 2,5% de la population mondiale de l'époque. Mais surtout, la majorité, entre 40 et 52 millions, sont des civils. Parmi les victimes des massacres nazis, 3,1 millions de prisonniers de guerre morts dans les camps, 1,8 million de civils polonais tués pendant l'occupation. Entre 200 000 et 250 000 handicapés tués dans le cadre du programme Action T4. Les Roms, désignés par les nazis comme parasites et restants à liquider, dont le nombre de victimes est incertain et varie entre 500 000 et 1 500 000. Roms qui, eux, ne seront pas libérés à la fin de la guerre, mais internés jusqu'en 1946. Et bien sûr, il y avait les victimes de la Shoah, la tentative de destruction des Juifs d'Europe, dont les estimations vont de 4,9 millions à 6 millions de morts. On ne pourra pas entrer ici dans l'histoire de la tentative de destruction des Juifs d'Europe. Pour cela, vous avez des films et des livres. Vous pouvez voir Nuit et brouillard d'Alain René ou Shoah de Claude Lanzmann. Et si vous avez le cœur bien accroché, vous pouvez lire le plus beau et le plus terrible des témoignages. Si c'est un homme de Primo Levi. Beaucoup, beaucoup de choses y sont à méditer et résonnent terriblement avec aujourd'hui. C'est une banalité de dire ça. Mais c'est surtout un crève-cœur que ce puisse être une banalité. Écoutez, beaucoup d'entre nous, individus ou peuples, sont à la merci de cette idée, consciente ou inconsciente, que l'étranger, c'est l'ennemi, écrit Primo Levi. Le plus souvent, cette conviction sommeille dans les esprits comme une infection latente. Elle ne se manifeste que par des actes isolés, sans lien entre eux, elle ne fonde pas un système. Mais lorsque cela se produit, lorsque le dogme informulé est promu au rang de prémisse majeure d'un syllogisme, alors, au bout de la chaîne logique, il y a le camp. Tant que la conception a cours, les conséquences nous menacent. On ne pourrait pas mieux dire. La question n'est pas de savoir si vous avez des préjugés antisémites ou islamophobes, ou homophobes. Tout le monde a des préjugés. Tout le monde est con. La question est de savoir à partir de quel moment une idée délétère comme celle-là devient importante dans votre vie. Se réinvite régulièrement. Commence à faire système, au point de vouloir s'imposer politiquement, au point de faire disparaître progressivement tout le reste. Au point de devenir la base de votre vision du monde. Au point de devenir, comme l'antisémitisme français de la fin du 19e siècle, tout ce qui est mauvais vient des juifs, tout ce qui est mal est juif. La question, c'est à partir de quel moment vous vous dites « tout ce qui est mal est arabe » ou « tout ce qui est mal vient des trans ». J'ajouterai à ce que dit Primo Levi. Nous savons que la seule et unique solution aux maux de l'humanité est le partage des richesses. Il n'y en a pas d'autre. Ce que Robespierre défendait sous le nom de « droit à l'existence et aux moyens de la conserver » dans son discours du 2 décembre 1792. Je cite Robespierre. « Nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. » Lorsque cela se produit, et lorsque pour détourner le regard du pauvre, on lui montre un étranger pauvre, que celui-ci soit juif, arabe, noir ou trans, en lui disant « il est la cause de ton problème », alors, au bout de la chaîne logique, il y a le camp. Dit autrement, par Aimé Césaire, au bout du capitalisme, désireux de se survivre, il y a Hitler. C'est là la responsabilité des politiques. Aujourd'hui, quand ils décident pour ne pas s'attaquer à l'inégale répartition des richesses, c'est-à-dire à leurs amis les milliardaires, à exciter leurs électeurs en mal de justice sociale avec des boucs émissaires racisés ou minoritaires. Ils savent très bien qu'au bout de la chaîne logique de leur discours, il y a le camp. Et s'ils ne savent pas, pardon, ils devraient un peu mieux se renseigner. Les camps de la mort. On nous dit qu'on ne savait pas. Sans doute on ne savait pas. On ne savait pas pour la solution finale. On ne savait pas pour les chambres à gaz et les fours crématoires. On ne savait pas, pas au sens d'un savoir, qu'il y avait alors tentative d'extermination des Juifs d'Europe de manière planifiée, organisée, optimisée. Mais on voyait les gens disparaître. On voyait des rafles. On voyait des familles emmenées dans des trains. On voyait de plus en plus de gens partir. Et surtout, personne revenir, jamais. On voyait les rues se dépeupler. On voyait une sorte de désert, à la fois existentiel et moral, commencer à gagner. Pour mesurer toute la violence sourde de ces années Pétain, pour sentir la dimension fantomatique de ces existences détruites par l'occupation, on peut lire Dora Bruder de Patrick Modiano. Coucou Stéphane, merci pour le conseil de lecture. Dora Bruder, c'est la tentative de reconstitution de la vie d'une adolescente juive, entendons-nous. Dora Bruder est une personne réelle, pas une héroïne de fiction. C'est une adolescente qui a existé et dont Patrick Modiano découvre, au détour d'un numéro de Paris Soir daté du 31 décembre 1941, une mention. On recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1m55, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, pullover bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron, adressée toute indication à Monsieur et Madame Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris. Dora Bruder a fait une fugue. Plus tard, pas très longtemps plus tard, comme ses deux parents, Dora Bruder sera déportée et mourra à Auschwitz. Alors que Modiano poursuit son enquête, à la fois dans les archives et dans les rues de Paris, d'autres fantômes viennent à sa rencontre, parmi lesquels celui de Ruth Cronenberg. Ruth Cronenberg, arrêtée en zone libre au moment où elle revenait de la plage de Koulyour, elle a été déportée dans le convoi du 11 septembre 1942, une semaine avant Dora Bruder, une jeune fille de Cologne, arrivée à Paris vers 1935, à 20 ans, à cause des lois raciales. Elle aimait le théâtre et la poésie. Elle avait appris la couture pour faire des costumes de scène. Ruth Cronenberg était l'amoureuse du poète Roger Gilbert Lecomte. Pendant quelques pages du livre de Modiano, Ruth et Roger apparaissent et disparaissent, leur amour scintillant comme une étoile fragile dans la nuit de ce temps. Roger Gilbert Lecomte a écrit certains des plus beaux poèmes de son temps. Ainsi, Hommage fraternel ou la bête immonde, nuit maudite, à jamais interdite entre toutes, nuit où le feu sanglant de mon regard troua ce lac de boue, obscur, absurde et vertical, et tout voyant vacillera sur ce spectacle. Au fond des yeux que je croyais d'un frère, pas trace d'âme, la pourriture noire aux éclairs de phosphore, le vertige sans fond du néant qui dévore. Roger Gilbert Lecomte, qui était-il ?
Donc cet épisode, il aurait pu être avant le précédent, où il est après celui-là. Enfin, disons qu'il y avait l'épisode sur le surréalisme, et la question était de savoir si je faisais un épisode sur l'affaire Dreyfus, mais qui irait jusqu'à Pétain, ou si je faisais un épisode sur Pétain, mais qui commencerait à l'affaire Dreyfus. Parce que l'idée, c'était de faire un épisode sur ce qui est appelé dans celui-ci la culture antisémite française. En tout cas, ce qu'elle avait de spécifique à partir de la publication de La France juive de Drumont, et donc du passage, on va dire, et de l'antijudaïsme millénaire, chrétien, théologique, à une forme racialiste, beaucoup plus violente, et surtout qui avait une dimension politique, qui pouvait servir de joker par rapport à des mouvements révolutionnaires. C'est-à-dire de le voir aussi comme, à une époque où il y a des mouvements de révolutionnaires, internationalistes, que ça soit communistes, anarchistes, etc., de dire, oui, oui, vous les pauvres, on le sait, vous souffrez, mais on a un ennemi tout désigné qui ne sera pas la classe bourgeoise. Cet élément-là est l'élément qui permet de le recoller à notre époque. Parce que, finalement, dans ces modifications et ces reconfigurations, passant de la forme de Drumont à la forme de l'Action française et finalement à la Révolution nationale de Pétain, on peut voir quand même un continuum. Et ce continuum terrible, il est explicité dans la phrase que j'ai citée de Primo Levi. Si vous avez les mêmes prémices, vous aurez les mêmes conclusions. À savoir, si vous avez au départ l'idée du bouc émissaire, de l'étranger qui est cause de vos malheurs, ou en tout cas de l'autre qui est cause de vos malheurs, et que ce prémisse, vous le nourrissez, vous le remplissez de toutes les causes et les conséquences de celui-ci, l'aboutissement sera toujours le camp. Et il dit, aujourd'hui, peut-être que vous avez plus ce prémisse sur les Juifs, c'est comme ça si c'était un homme, mais si jamais ça reprend, que ce soit sur les Juifs ou sur quelqu'un d'autre, la conséquence, c'est le camp. Et ça, vous pouvez le transposer. C'est-à-dire que vous pouvez aisément le transposer aujourd'hui aussi dans le délire anti-wokiste. Tout ce qui est mal est woke. Tout ce qui est mal est trans dans le délire islamophobe. Tout ce qui est mal est musulman. Tout ce qui est mal vient des musulmans. En construisant, en fait, cette série logique, en évitant toujours ainsi la question de la répartition des richesses qui crée le malheur, c'est-à-dire, la base, le truc que Robespierre dit et répète, quoi. Ce n'est pas acceptable que si vous avez à votre disposition des stocks de blé ou des stocks de riz ou je ne sais pas quoi, et qu'il y ait quelqu'un qui meurt de faim à côté. C'est le droit à l'existence. Le droit à l'existence est au moyen de la conserver. Si on oublie le droit à l'existence, si on va dire les droits de l'homme, c'est quelque chose de purement abstrait et ça ne se transpose pas de façon concrète par rapport à des questions de répartition des richesses, et si pour éviter d'affronter la question, on va chercher des boucs émissaires, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient homo, qu'ils soient trans, ce que vous voulez, la conséquence, comme dit Primo Levi, in fine, ce sera le camp. Les livres. Alors, pour cet épisode, j'ai lu beaucoup de livres de salopards que je ne vais pas vous montrer, que je ne vais pas vous conseiller. J'y ai trouvé mon compte, c'est-à-dire que j'ai trouvé toujours des choses amusantes, évidemment, à titre d'exemple, mais on ne va pas dire que c'est mes lectures préférées. Mais j'ai lu aussi de très bons livres sur les sujets qui nous concernent. Et le premier, en fait, et c'est une histoire amusante, c'est le Grégoire Kaufmann sur Édouard Drumont. Histoire amusante, pourquoi ? Parce que ça doit être sans doute la première fois que l'un des livres consultés pour écrire l'épisode le soit par un auteur qui ensuite va être une des personnes que j'ai consultées pour corriger l'épisode. En fait, il se trouve que Grégoire Kaufmann et moi, on avait été en contact il y a quelques années, très brièvement, et que lorsque je commençais à travailler sur l'épisode en question, je voulais des choses sur Édouard Drumont. Son livre était le livre de référence. Donc j'ai acheté son livre et j'ai commencé à le lire. Et c'est là où j'ai reçu un mail de Grégoire Kaufmann qui m'écrivait pour toute autre chose. Et on a commencé à correspondre. Je lui ai dit, c'est drôle, je suis en train de lire ton livre sur Drumont. Et puis je lui ai expliqué ce que je faisais. Puis au bout d'un moment, parce que je lui ai expliqué ce que je faisais, je lui ai demandé tout simplement, bon, est-ce que ça t'embêterait beaucoup de le revoir et de voir si je dis que des conneries ou si ça va, quoi. Il a accepté de relire mon épisode et puis il a retrouvé quelques erreurs factuelles qui auraient été dommages qu'elles restent dedans, quoi. Très clairement. Ce livre, excellent, sur Édouard Drumont, de Grégoire Kaufmann. Et Grégoire Kaufmann m'a conseillé le livre sur Esterhazy. Ce personnage, quand même, vraiment bizarre de l'affaire Dreyfus, le vrai traître, quoi. L'auteur du bordereau. Et qu'on connaît très mal, parce que c'est une figure d'arnaqueur, d'escroc, de mec qui n'est pas celui qu'on croit qu'il est, et qui vit sur plusieurs mondes, et qui est à la fois proxénète, boursicoteur, joueur, qui est toujours criblé de dettes, et qui est absolument sans morale, mais aucune, sans scrupules, et qui réussit quand même l'exploit à être à la fois le véritable coupable de l'affaire Dreyfus, et à ce moment-là, documentaliste, à la libre parole, le journal de Drumont, qui fait toutes ses unes sur Dreyfus, le traître Dreyfus. C'est-à-dire que le journal qui va faire toute son actu sur Dreyfus, en fait, abrite le vrai traître. Cette histoire de ridicule terrible autour de ce personnage terrible. Et c'est Grégoire Kaufmann qui m'a conseillé le Marcel Thomas. Donc, excellent livre sur Esterhazy. Vraiment très étrange personnage qui reste du reste très opaque jusqu'au bout, malgré tout. Comme souvent les arnaqueurs professionnels, ils tombent rarement le masque, ils tombent pas du tout le masque. Et inquiétant. La figure la plus émouvante dans cette histoire, c'est celle de Bernard Lazare. Il y a évidemment le recueil de ses fascicules sur l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, une erreur judiciaire, qui a été rééditée par les éditions Alia. Donc c'est passionnant parce que c'est, vous pourriez dire, la première enquête de journalisme d'investigation au sens moderne, c'est-à-dire que pour les gens qui s'intéressent au journalisme d'investigation, voilà quoi, type Denis Robert, quoi. Salut Denis, bah c'est vraiment un précurseur parce que c'est vraiment le type qui va reprendre les mensonges, qui va les décortiquer, qui va ressortir les documents, qui va montrer les documents qu'on connaît pas, etc. Et Bernard Lazare, c'est assez dur à lire comme ça en direct, quoi, parce que c'est, il nous manque beaucoup d'éléments, on le connaît mal, etc. Donc c'est bien aussi. Et j'ai lu une biographie par un autre des grands spécialistes de l'affaire Dreyfus, qui est Jean-Denis Bredin, et qui a fait cette biographie sur Bernard Lazare, le premier des Dreyfusards, et qui m'a passionné. Pourquoi exceptionnellement on n'est pas en extérieur mais en intérieur, dans une librairie? Pas seulement parce qu'il fait froid, parce qu'on est dans une librairie très spéciale. Une librairie qui est ouverte il n'y a pas très longtemps dans le quartier latin et qui porte le nom du Contre-ciel. Et le Contre-ciel, c'est le recueil de poèmes de René Daumale qui, avec Roger Gilbert Lecomte, a créé ce mouvement, cette revue exceptionnelle qui est Le Grand Jeu. Roger Gilbert Lecomte, qui était-il? C'était un poète qui appartenait au groupe concurrent, si l'on veut, du surréalisme. Le Grand Jeu. Grand Jeu que Roger Gilbert Lecomte avait fondé et dirigé avec René Daumale. Roger Gilbert Lecomte est né en 1907, René Daumale en 1908. Ils se sont rencontrés à Reims, dans une ville quasiment détruite par les bombes. Au lycée, avec une poignée de camarades de classe, ils partagent une passion commune pour Nerval, Rimbaud, Jarry, ainsi que pour la pensée orientale, l'hindouisme, le bouddhisme, mais aussi le goût des états limites, allant de la drogue au rêve dirigé, en passant par les exercices de vision extra-rétinienne, ce qu'ils appellent la métaphysique expérimentale. René Daumale et Roger Gilbert Lecomte ont tous les deux vécu une expérience similaire dans leur jeunesse. Ils ont perçu la présence d'une autre réalité à travers des projections astrales. C'est, dira René Daumale, la certitude de l'existence d'autre chose, d'un au-delà, d'un autre monde ou d'une autre sorte de connaissance. Et à ce moment-là, je connaissais directement, j'éprouvais cet au-delà dans sa réalité même. Il ne nous fallut qu'un regard échangé pour savoir que nous avions vu la même chose. Le Grand Jeu. La revue que Roger Gilbert Lecomte et René Daumale dirigeront à partir de 1928 a beaucoup de points communs avec le surréalisme. Mais c'est pas le même ton. Le ton du Grand Jeu est prophétique. Il voit et annonce. Le Grand Jeu est irrémédiable. Il ne se joue qu'une fois. Nous voulons le jouer à tous les instants de notre vie. Le lien de leur activité avec une forme moderne de spiritualité non dogmatique est plus fortement affirmé. Tous les grands mystiques de toutes les religions seraient nôtres s'ils avaient brisé les carcans de leur religion que nous ne pouvons subir. D'ailleurs, parmi les nombreux projets annoncés mais pas réalisés par Roger Gilbert Lecomte, il y avait un essai sur les gnostiques. Dès 1927,
tableau des hérésiarques. Dans certains textes, Roger Gilbert Lecomte semble percevoir la toute-puissance de la technologie à venir et annonce le rapetissement de l'homme du futur, son cerveau déformé par le perfectionnement des machines, par la rationalisation et la spécialisation du travail. Rappelle-toi, voici, je te donne un signe à quoi tu reconnaîtras si je dis vrai. Dans peu de temps, tu ne rêveras plus. Alors, conséquence obscure pour toi et néanmoins fatale, directe, tu perdras toute conscience individuelle, tu seras insecte. Face à cet événement majeur, dont Gilbert Lecomte situe le commencement en l'an 2000, il annonce également le soulèvement des hommes à trois yeux, qui lutteront contre cette prison technologique avec des armes magiques. Ces hommes à trois yeux seront les continuateurs des poètes inspirés, débarrassés des carcans religieux du passé. Le grand jeu et l'avant-garde dont le monde n'a pas voulu. Même les règles habituelles concernant la reconnaissance posthume des poètes ne s'appliquent pas pour eux. À la limite, un peu pour Daumal, qui, abandonnant l'aventure commune pour une quête spirituelle bien différente, écrira un recueil, Le Contre-Ciel, et deux récits, La Grande Beuverie et Le Mont Analogue. Mais pas pour Roger Gilbert Lecomte. Dandy, drogué, androgyne, gentil comme un ange, en état de médiumnité permanente. Ses écrits sont très loin d'avoir aujourd'hui l'écho que leur beauté et leur pertinence devraient susciter. Le sujet poétique principal de Roger Gilbert Lecomte, c'est le vent. Le vent auquel il donne une dimension métaphysique et symbolique particulière. Grand voyou chérubin démesuré,
clown des tourbillons, sculpteur des nuages, roi des métamorphoses, toi qui fais vivre éperdument les choses, qui sans toi serait voué à l'inertie la plus plate, immense père des spectres et des frissons.
Le vent et le désert. Le monde que voit Roger Gilbert Lecomte dès son enfance, qu'il convoque dans sa poésie, est celui dans lequel il va disparaître. Un monde désert, dépeuplé, où l'humanité n'existe plus ou n'existe pas encore. C'est en 1935 que Roger rencontre Ruth Cronenberg, cette jeune couturière, comme lui, lectrice passionnée de poésie. Ils vont s'installer dans un atelier misérable de la rue Bardinet. Ruth sera déportée le 11 septembre 1942 et mourra à Auschwitz. Roger, ne sachant ce que Ruth est devenue, la pleurera sans espoir et mourra un an plus tard, le 31 décembre 1943, emportée par le tétanos. Ruth Cronenberg et Roger Gilbert Lecomte ne se seront pas retrouvés. Et l'histoire ne les aura pas retrouvés non plus. Quelque chose est resté inachevé ici. Quelque chose a été dérobé, escamoté, dans le tissu même de l'espace-temps. La transmission des rapports entre l'homme et le monde nous avait été donnée prophétiquement par les poètes depuis la fin du XVIIIe siècle. Blake, Novalis, Nerval, authentiques descendants des 100 rois. C'est toujours aux poètes qu'on s'était adressé pour nous indiquer nos prochaines métamorphoses, même s'ils agissaient sur nous de façon posthume. Lautréamont, Rimbaud, le dernier poète français à avoir pu, un peu magiquement, être transmis jusqu'à nous est Antonin Artaud. Mais à partir de Roger Gilbert Lecomte et de Colette Thomas, c'est comme si les voix des visionnaires résonnaient dans un monde parallèle au nôtre, un désert psychique, sans connexion directe avec le nôtre. Un monde qu'il faudrait arracher aux forces du néant qui nous sépare de lui. Nous avons été éloignés d'une activité prophétique à la suite d'une perte de confiance, non seulement dans les pouvoirs de la poésie, mais dans toutes celles de l'imaginaire. Les puissances de l'imaginaire, non pour dénoncer une situation présente, pour nous parler d'un futur désirable, ça c'est vraiment la propagande, l'incompréhension totale de ce que peut l'art, mais pour voir à travers le temps, pas montrer comment les choses se passent réellement, mais capter une image qui tient à la fois du passé et de l'avenir, telle qu'elle surgit à l'instant du danger. Comme dans Conan de Bertrand Mandico, par exemple. Immense film d'aujourd'hui sur le fascisme et sa fascination. Coucou Bertrand, coucou Elina. Et comme dans la musique de Captain Beefheart, Mirror Man, Trutmask Replica, The Spotlight Kid, Captain Beefheart, non-star du rock plus importante, plus décisive que toutes les rockstars de son temps. Captain Beefheart, dont toute l'œuvre est prophétique. Et pour cela, il faut accepter de ne pas comprendre. Et de comprendre quand même, autrement. De comprendre par saut interprétatif. parce que c'est de l'exégèse de la parole prophétique de nos poètes confisqués que dépend notre reconnexion à la spiritualité révolutionnaire des 100 rois. Et ils le savaient, comme ils savaient le temps et l'espace qui les sépareraient de nous. Comme dit Colette Thomas, nous avons déjà vaincu, évidemment, mais personne ne le sait. Tant que ce lien entre eux et nous ne sera pas rétabli, quelque chose sera déboîté à tout jamais. C'est la revanche de Dreyfus, avait dit Maurras lors de sa condamnation le 25 janvier 1945. Drummond, Maurras, Pétain, avec la fin de la guerre, un monde meurt, leur monde. Et c'est bien, ce serait même très bien, si le 8 mai 1945 n'était simultanément la date d'une des pires saletés coloniales de notre pays, au moment même de la fin de la guerre. Ce sont les massacres de Sétif et de Guelma en Algérie, lorsque la population du Nord constantinois, au moment de célébrer la victoire des Alliés, décide de rappeler pacifiquement à la France ses revendications nationalistes. Par des banderoles, des drapeaux réclamant à la fois la libération de détenus politiques et l'application des droits de l'homme sur le territoire. Résultat, la police coloniale et les civils européens répondent par des exécutions massives et des représailles collectives. On parle de 45 000 morts en une seule journée. 45 000 morts ! Et pour empêcher toute enquête, les Français ouvrent des charniers et incinèrent les dizaines de milliers de cadavres dans des fours à chaud. Oui, le 8 mai 1945, alors que d'un côté, la France se félicite d'en avoir fini avec le nazisme, de l'autre, elle massacre une population avec une inhumanité qui n'a rien à lui envier. Ce qui donne raison à Aimé Césaire, écrivant dans son discours sur le colonialisme, on s'étonne, on s'indigne, on dit « comme c'est curieux, mais bah, c'est le nazisme, ça passera ». Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité. Que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé, parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non-européens. Quelque chose qu'avait du reste également vu Simone Veil. Si on examine en détail les procédés des conquêtes coloniales, l'analogie avec les procédés hitlériens est évidente, avait-elle écrite dans « À propos de la question coloniale dans ses rapports avec le destin du peuple français », un texte écrit à Londres pour la France libre. Je cite toujours Simone Veil. « L'hitlérisme consiste dans l'application par l'Allemagne au continent européen et plus généralement aux pays de race blanche des méthodes de la conquête et de la domination coloniale. » Ces massacres du 8 mai 1945 peuvent être considérés rétrospectivement comme le début de la guerre algérienne d'indépendance, la guerre héroïque d'Algérie, comme l'écrit Frantz Fanon en ouverture de l'an 5 de la Révolution algérienne. La guerre d'Algérie, la plus hallucinante qu'un peuple ait menée pour briser l'oppression coloniale. Faites entrer les colonialistes. Merci d'avoir vu cet épisode de L'Empire n'a jamais pris fin et rendez-vous dans un mois pour le suivant. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast, activez la cloche. Les 7 épisodes diffusés l'année dernière font désormais l'objet d'un livre aux éditions Florent Massot et Blast, L'Empire n'a jamais pris fin, tome 2, de Rabelais à la Révolution. Il contient un texte supplémentaire, Quid de Sade. Alors, si vous n'aimez pas cette réflexion sur la culture antisémite française de Drummond à Pétain, allez pester contre Robespierre et le principe de l'égalité entre les hommes et repeignez en rose l'histoire de cette France d'avant. Conquérante, raciste, colonialiste, inégalitaire. Cette France qui, si elle ressuscitait aujourd'hui, vous ferait immédiatement crever. Image, Cyprien Bizot. Assistant montage, Mehdi Lacal. Graphisme, Margot Simon. Graphisme, Morgane Sabouré. Musique, Baptiste Veillant. Son, Théo Duchesne. Réalisation, Mathias Enthoven. Réalisation et montage, Ameyès Aitoufella.